Un grand bonjour à tout le monde. C'est pas assez long, je vais mettre ici. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous, une grande joie et un privilège de revenir à notre église ici et de voir les visages. Il y a des visages partout et des nouveaux visages aussi. Et c'est vraiment quelque chose. On ne savait pas on va voyager au Québec, mais on remercie Dieu pour ça. Mais je veux demander d'avance pour le français que je vais employer. Okay? Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas parfait non plus. Mon père me disait que je parlais le français jusqu'à 7 ans. Mais après ça, parce qu'il était dans l'armée, on bougeait beaucoup. Et on était dans les milieux anglophones, et ma mère était anglophone, et on parlait anglais dans la maison. Quand Dieu nous a appelés au Québec en 98, il fallait que Denise et moi apprennent le français presque à zéro. Ou même 0.5 ou quelque chose comme ça. On est arrivé à Rimouski et pour la première année, je ne voulais pas parler du tout. Parce que j'ai un nom assez français, québécois, Michel Dubé, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un me demande, c'est quoi ton nom? C'est Michel Dubé. Il me regarde comme je viens d'insulter leur mère. Parce que la façon que je parle, je dis, mais comment tu as un nom comme ça et tu ne parles pas le français? Bon, ça, c'est une longue histoire, mais... On a fait 8 ans au Québec et nous avons appris beaucoup de vocabulaire, la grammaire, c'était merveilleux. Et ensuite, Dieu nous a appelés au Québec, en Guinée. Et le problème, c'est qu'on a fait 10 ans en Guinée et le français, c'est leur deuxième langue aussi. Et on a perdu beaucoup de notre vocabulaire et grammaire. C'était un peu décourageant parce que l'année passée, mon ami Sedouba, à Conakry, il m'a dit l'année passée, il a dit, « Oh, Michel, parce que maintenant, il y a 10 ans, j'avais un accent assez québécois. » Il dit, « Quand tu es arrivé en Guinée, tu avais un mauvais français, vraiment. » Maintenant, tu parles très bien. Je dis, oh. Bon, ça, c'est ma petite histoire. Mais après, si vous voulez, j'essaie de chercher. Bon, on a une carte de prière si vous voulez prendre un, si vous voulez. Et aussi, si vous voulez recevoir notre... On a chaque mois, chaque 2 mois, on a une lettre de prière qu'on envoie par email. Si vous voulez mettre ton nom et ton email, et vous pouvez recevoir ça. Moi, c'est en anglais, mais de temps en temps, on va faire pour nos amis au Québec, n'est-ce pas? Bon, comme j'ai dit, nous avons fait 10 ans en Guinée, mais les 5 dernières années ont été plutôt intéressantes, mais aussi difficiles. On a des choses chaque jour qui sont... habituel, on a un manque de l'eau, l'Internet est comme de mélasse, il y a quoi d'autre? Il y a chaque jour, bon, à l'heure là, chaque jour, il y a des manifestations, on a eu l'Ebola et tout ça, mais en revenant ici, j'ai réalisé que de plus en plus que les défis de la vie ne s'applique pas seulement à notre expérience dans un pays en développement. Je suis conscient des défis auxquels des Canadiens et des Québécois sont confrontés tous les jours. Surtout après 5 ans, il y a un grand changement dans notre société. Et vous savez qu'un jour, la vie peut être géniale, et le lendemain, ça peut être... très difficile. Les événements se produisent tout le temps dans nos vies. Et certains d'entre eux sont merveilleux, il y a certaines qui sont désagréables, certaines tragiques. Et heureusement, Jésus reste fidèle, il est constant, il est le rocher dans nos tragédies et dans notre tristesse. Mais quand un événement terrible arrive dans nos vies, nous allons poser des questions, n'est-ce pas? Pourquoi cela se passe-t-il dans ma vie? Et pourquoi maintenant? Quel est le plan, Seigneur? Quel est le plan? Parce que je ne peux pas le comprendre. Et on a vécu assez de choses dans les cinq dernières années. Et il y a certaines choses que je me grattais la tête parce que je ne pouvais pas comprendre. Je n'ai pas toujours l'occasion de comprendre de ce qui se passe. Mais au milieu des changements et de la transition, il y a une partie de moi qui est un peu curieux. Même si la chose est tellement difficile, il y a une partie de moi qui est curieux. Comment Dieu va racheter ce moment-là? Le problème qui est devant nous. Et vous et moi sont à peu près le même, n'est-ce pas? On est des humains, n'est-ce pas? Et que je traverse l'Atlantique et rencontre des difficultés uniques dans ma vie, vous aussi sont affrontés par vos propres défis. Et certains de vos défis peuvent être très similaires aux miens. Nous sommes confrontés au même type de défis. Décision à faire pour notre avenir, où vivre, pour quelle entreprise est-ce que je dois travailler. Les parents qui sont vieillissants, perte d'une mère, un père, un frère, un enfant, un mari. Mais Dieu va utiliser ces choses pour sa gloire. Mais on ne le voit pas, mais peut-être après. Je voudrais que nous jetions un coup d'œil à une de mes histoires favorites ou préférées dans le Nouveau Testament. Et je vais demander à le pasteur de... Tu peux. De le lire. Comme il est... Je pense qu'il parle très bien en français, n'est-ce pas? Peut-être vous le savez, mais... Il y a quatre Philippe dans le Nouveau Testament. Bon, les deux qu'on entend souvent, c'est Philippe l'apôtre et Philippe l'évangéliste. Et c'est celui qu'on va en parler aujourd'hui, Philippe l'évangéliste. Et l'histoire de Philippe est vraiment incroyable. On vient d'écouter l'histoire. Et c'est vraiment une histoire d'un homme qui est obéissant, qui marche avec Dieu, dans un monde perdu et brisé. Même, il marche en obéissance, avec l'obéissance, mais ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça n'a pas de sens. On va regarder dans un moment. Mais vous pourriez penser que nous allons nous concentrer aussi sur la rencontre de Philippe et l'Éthiopien, et on ne va pas le faire. Mais je voulais que vous écoutiez l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Dieu a vraiment appelé un homme d'aller, Philippe, un moment précis pour un but précis. Mais il ne savait pas ce qui va arriver. Dieu a vu l'homme d'avance. Il a vu l'homme... l'Éthiopien, en cherchant une réponse des Écritures. Et Philippe arrive au bon moment, un moment parfait. Et pour moi, ça c'est l'art. Okay? Si on aime le beau-art, ça c'est l'art. Ça c'est Dieu qui est en train d'orchestrer un plan que Philippe ne pouvait pas revoir, mais on voit ce qu'il a fait. Il arrive au bon moment où il lit dans les Écritures du Messie. Et on voit qu'il a cru et il a été baptisé. Et c'est vraiment quelque chose d'encourageant. Parce que c'est ça que Dieu fait dans nos vies. Il y a un plan. dans nos vies, des fois on le voit et des fois on ne le voit pas. Et souvent on n'est pas à l'écoute. Mais des fois, oui, Dieu nous arrête et on dit, OK, je vois le plan. Et il a lu aussi ce qui est arrivé à l'Église, la persécution qui est venue à cause d'Étienne. Et avant l'Éthiopien, avant le Samarie, la Samarie, l'Église à Jérusalem a été sous une grande persécution. Et c'était déclenché par la lapidation d'Étienne. Et lui avait une grande foi en Jésus. Et il a défendu ardemment sa conviction que c'est les pharisiens et les juifs qui ont mis Jésus sur la croix. Mais Étienne savait que oui, c'est nous tous, n'est-ce pas, qui ont mis Jésus sur la croix à cause de nos péchés. Lui-même aussi va dire la même chose. Mais c'est les pharisiens et les juifs qui ont mis physiquement sur la croix. Et il était courageux. Il a dit ça à eux. C'est vous qui avez mis. OK, on va. Et il est mort à cause de ça. À cause de cet événement de persécution, les croyants ont été dispersés. Et en acte 8, non, acte 1, verset 8, peut-être vous connaissez le verset, mais je vais lire le verset. Acte 1, verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Jésus qui parle avec ses apôtres en ce moment, ses disciples. Et maintenant, donc, Philippe, il fait maintenant partie de cette dispersion. Et le Saint-Esprit, maintenant, le guide jusqu'à Samarie. Est-ce que Jésus a dit à ses apôtres, ses disciples, qui allaient témoigner d'une telle façon? Est-ce qu'il a dit comment ils vont être dans ces régions de Judée, Samarie? Est-ce qu'il a, il n'a pas dit comment ça va être, comment ils vont le faire? Mais pour moi, c'est intéressant pour moi que Dieu a utilisé un événement terrible pour bénir les autres. Et il nous arrive des choses aussi dans nos vies, n'est-ce pas, qui changent parfois nos vies. On se demande, est-ce que Dieu l'a planifié? Est-ce qu'il a planifié cette mauvaise chose dans ma vie? Et je ne sais pas. Est-ce que Dieu a permis que cela se produise? Est-ce qu'il a laissé ça? Oui, ça c'est sûr, parce qu'il est souverain. Il voit toutes choses. Mais ce qui est le plus important à comprendre, c'est que Dieu va l'utiliser pour sa gloire. En 2014, Ebola est venu en Guinée. Et c'était une période qui a changé l'histoire de la Guinée. Vous avez entendu parler peut-être. Bon, ce n'est pas seulement la Guinée qui a été affectée, mais il y avait Sierra Leone, Liberia, et à peu près plus que 11 000 personnes sont mortes à cause de cette maladie. Et avant que le Ebola est venu, il nous a frappé en 2014. Pour Denis et moi, dans notre ministère, ça allait bien. On était contents, on était vraiment. Dieu était en train de nous utiliser. Mais la raison pour laquelle le virus d'Ebola est devenu tellement terrible, incontrôlable, et tué tant de gens, c'est parce que le gouvernement a mis sa tête dans la sable. Okay? Et après quelques mois, il y a tellement de gens qui mouraient. C'était évident qu'il ne pouvait pas plus l'ignorer. Et le problème. Et au début, il y avait beaucoup de tensions dans nos vies, surtout parce qu'on ne savait pas comment le virus marchait. Nous avons d'abord pensé que nous étions dans un danger terrible. Mais après, on a été informé plus tard que la plupart des cas, il y a certaines exceptions, quand tu as la maladie de Ebola, tu ne peux pas bouger. Tu restes dans ton lit et tu vas être malade là-bas. Mais quand tu es au milieu de quelque chose comme ça, tu penses des choses terribles. Ton cerveau commence à travailler chaque jour. Tu vois les gens, est-ce que je vais serrer la main? Il y a beaucoup de choses tu es en train de réfléchir. Et juste pour vous donner une idée de comment on travaillait avec ça, dans la capitale de Conakry, nous ne recevons pas l'eau chez nous. Dans ces temps-là, il fallait que je cherche l'eau. Bon, j'ai emprunté un mini-fourgonnette. J'allais chercher un réservoir de 1000 litres vide. Je mets dans la fourgonnette. Je me déplace, je cherche l'eau, je prends le tuyau de robinet, je mets le tuyau dans le réservoir, je remplis pendant 1 heure, 1 heure 30 de temps, dépendant de la pression. Et après, je vais chez moi, il faut que je monte l'eau sur le toit, ça prend une autre heure. Bon, c'était notre vie. Et il y avait une nuit que j'allais chercher de l'eau. Et ce jour-là, j'ai cherché une Fanta orange en bouteille. Et j'ai dit, ah bon, j'ai besoin de ça. Et j'étais à côté, c'était la nuit, j'étais à côté de la fourgonnette. Et ensuite, il y avait une forme de pluie qui descendait sur moi et sur la bouteille. C'est un peu bizarre parce que c'est la saison sèche. Mais c'est un peu rare, mais ça peut arriver. Bon, maintenant, les moustiques commençaient à sortir et je ne voulais pas le malaria. Je suis rentré dans la fourgonnette pour attendre que l'eau est remplie. Encore, sur le windshield, le pare-brise, là, la pluie commence à descendre encore. J'ai dit, mais c'est vraiment étrange. C'est quoi? C'est quoi? Parce que j'étais sous un grand manguier. OK? Soudainement, mes yeux commencent à ouvrir, mon cœur commence à battre. Je savais c'était quoi. C'était les chauves-souris qui étaient en haut, il y avait une trentaine de quelque chose, qui mangeaient les mangues. C'est eux qui ont fait pipi sur mon bouteille. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai pensé, ils ont fait et j'ai bu la bouteille. Et tout de suite, j'ai pensé à Ebola, parce que les gens, dans ce jour-là, on ne savait pas assez, on n'avait pas assez d'informations. Et bon, la plupart des gens, des scientifiques, pensent que ça vient des chauves-souris. Mais Ebola était dans le sud. Même pour moi, bon, ils voyagent, hein, et je ne voulais pas même dire à Denise pour 3 jours, même la toucher. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Bon. Oh, c'était stressant, yes. Mais ce qui est intéressant, c'est quelques mois plus tard, j'avais un ami qui est venu. Il a frappé à la porte. Et Denise, c'est Denise qui était là pour le moment, en ce moment. Il était couché dans la rue et il avait 4 de ses 5 symptômes d'Ebola. Et c'était toute une histoire, vraiment un cauchemar, parce il fallait qu'on les déplace. Il y a un centre pour les gens victimes d'Ebola. Mais j'étais en contact avec lui il y a 3 jours. Mais à la fin, bon, comme vous voyez, je suis debout et je n'ai pas eu l'Ebola. OK. Revenons à notre histoire. Chrétien, persécution, c'est pas bon. OK. Nous pensons souvent à quel point la persécution n'est pas bon et terrible, n'est-ce pas? La persécution, c'est vraiment. On le voit en Guinée, dans l'Afrique du Nord, dans le Moyen-Est. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon. Mais Dieu, tu vois, Dieu l'a utilisé pour sa gloire. Et Philippe s'est retrouvé à Samarie au bon moment. Et sans Christ en lui, et les mots qu'il utilisait pour partager l'évangile avec ces gens-là, c'est vraiment une révolution qui est venue à cette ville en Samarie. Et sans que Dieu était en lui et l'a guidé là-bas, on ne voit... Bon, je veux qu'on regarde encore, OK? Acte 8, je veux relire. Acte 8, chapitre... Ah ouais, chapitre 8, versets 4 à 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu de la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des cris, grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Il y avait une grande joie dans cette ville. Une ville entière. Pouvez-vous imaginer si Pierrefonds vivait dans ce genre de moment, ou là où vous viviez? Alors, imaginez avec moi comment vous sentiriez, vous, si vous étiez Philippe, OK? Je veux que vous pensiez à Philippe maintenant. En ce moment, les gens célébraient. Les gens se transformaient à cause de ce que Jésus a fait dans leur vie. Et tu entends aussi les cris de joie. Dieu m'a guéri. Je vois pour la première fois. Je n'ai jamais su l'amour de Dieu comme aujourd'hui. Et ainsi de suite. Les crises de joie. Ensuite, vous arrivez à verset 26. On va relire maintenant. Verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Dieu lui envoie un ange pour lui dire qu'il doit partir. Quoi? Ah! Je dois partir maintenant ou dans le sud? Oh, à pied, en utilisant une route spécifique. Et ça sent bien, n'est-ce pas? La route qui est désert. Wow! J'ai hâte de prendre ça. Merci Dieu! Ça va être génial! Mais imaginez, il commence à marcher. Imaginez que vous êtes Philippe maintenant. Tout ce qu'il faisait dans cette ville à Samarie, il avait du succès. Il était content de voir les gens qui étaient libérés des démons, qui étaient guéris. Et maintenant, il se demande des questions. Si on voit que Philippe est un humain, qu'il est comme nous, il doit commencer à se demander des questions. Des choses comme, Dieu, il y a un grand moisson maintenant. Pourquoi je dois partir? Des gens ont besoin de moi pour faire des cours de disciples. J'ai 10 cours de disciples, il faut qu'ils prennent. Hein? Mais non, tu vois, il y a encore des gens qui doivent entendre. Je veux que tu partes. Et voilà, il va. Sans comprendre, mais il voit, il va. Il part à cause de l'obéissance. Et il rencontre l'Éthiopien, un homme qui avait besoin de Jésus aussi. Et vous? Vous êtes trouvé sur un chemin sec, et vous sérieux, là où vous pensez que Dieu peut-être n'est pas avec vous? Ou est-ce qu'il vous demande de faire quelque chose qui semble trop difficile, mais vous savez déjà que c'est ça qu'il veut de vous? Tu sais, peut-être vous ne connaissez pas l'histoire de ma femme, mais quand elle était plus jeune, avant qu'on s'est marié, elle a pensé que, bon, elle est partie faire le collège biblique. Elle pensait, je vais me marier avec un pasteur peut-être, et je vais vivre dans la même maison, et avec la clôture blanche, et si j'ai besoin les mêmes divans, et si je dois bouger le divan, je vais mettre peut-être... Elle a pensé qu'elle va rester dans un lieu. Mais elle dit toujours que Dieu a un sens d'humeur, n'est-ce pas? Parce qu'on a bougé tellement de places. Elle n'aime pas le changement. Mais tu vois que... Bon, juste un exemple que... quand Dieu appelle quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, Dieu peut changer nos cœurs, n'est-ce pas? Encore avec Ebola. Et c'est un peu avec parler de ma femme, mais pour nous aussi. En 2014, quand l'Ebola est devenu incontrôlable, le gouvernement du Canada a dit, nous a envoyé un email, a dit qu'il faut que vous partez. Parce que s'il y a un problème, on ne peut pas vous sortir. Et il n'y avait pas une ambassade, mais il y a une ambassade au Sénégal. Et c'est eux qui nous ont envoyé le email, le courriel. Et on n'avait pas de choix. Et on a pris toute notre équipe, les Canadiens en Guinée, et on est parti. Et nos patrons nous a dit de partir à Niger. On a dit, oh, Ebola ou Al-Qaïda. Je ne sais pas, mais c'est un... OK, on va à Al-Qaïda. Mais il y avait un... C'était un peu tranquille. Actuellement, la capitale du Niger, c'est Niamey, et le plus, dans toute l'Afrique, c'est le capitale qui est le plus safe. Comment on dit ça en anglais? Sécuritaire. Parce que tu vois les drones, les Américains ont leurs drones là-bas, ils font beaucoup de surveillance, et c'est vraiment intéressant. C'est OK, on va là-bas. Et on est resté là-bas pour 2 mois pour. Parce qu'il fallait, à cause de Ebola, il faut qu'on reste là-bas pour vérifier qu'on n'a pas le virus. Après 2 mois, on est parti en Turquie pour une conférence. On ne pouvait pas retourner en Guinée pour voir nos enfants parce que Ebola était là-bas. Nos enfants sont venus en Turquie. Après, on est parti en Belgique et en France. Après, Dieu nous a appelés en Maroc pour deux mois pour faire la recherche. Après, on est parti en Sénégal pour 3 mois pour faire la recherche. Et ensuite, au Canada pour 2 mois. Et retourné en 2015 pour Québec. Ah, mais pour la Guinée. Et, OK, ma femme n'aime pas le changement. Mais Dieu nous on était obéissants parce que l'Alliance chrétienne et missionnaire nous a demandé de faire cette recherche. Et ce qui est intéressant, à cause de, on a dit oui, le Sénégal n'était pas ouvert pour le Canada de travailler là-bas comme pour la mission. Et parce qu'on a fait un rapport, et maintenant on a 3 missionnaires qui commencent à travailler là-bas. Et si on a refusé, bon, Dieu va continuer à faire son œuvre, mais on a allé écouter. Et tu vois, Ebola, c'est un événement, c'est quelque chose qui est terrible. Et ça a changé, même la culture guinéenne s'est changée maintenant, pour le bien. Il y avait beaucoup de... Les gens continuent à être tristes de leur mort, mais ça a changé pour le bien. Mais aussi, Dieu a utilisé cet événement pour que sa parole continue dans d'autres pays. On ne sait pas ce que Dieu peut faire dans nos vies. Nous, on est un simple couple. Mais vous aussi, sont comme nous. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans vos vies si vous êtes obéissant? Et ça peut être à Pierrefonds, ça peut être à Laval, ça peut être à l'extérieur, n'est-ce pas? Il faut qu'on soit obéissant à son appel et il peut faire de grandes choses. Je veux lire maintenant, juste pour terminer, c'est des versets qui sont encourageants. C'est trouvé en Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, peut-être vous le connaissez, mais c'est des versets qui sont encourageants, qui nous aident à être dirigés par Dieu. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Ça dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et c'est la vérité. Pour nous, on pensait que quand Dieu nous a appelés au Québec, on pensait qu'on va mourir ici. Et le jour que Dieu nous a appelés de sortir, bon, ma femme surtout, mais elle a pleuré parce que c'était notre rêve de rester. On a beaucoup aimé le Québec. On a fait beaucoup d'amis ici. Et nous savons qu'il y a un grand besoin. Mais Dieu a dit qu'on doit partir. Et on l'écoutait. Et avec ces versets que « Confie-toi au Seigneur, c'est la vérité. » Il va nous conduire dans le chemin qu'il a pour nous, comme il a fait pour Philippe. Rien n'a changé depuis, dans les cours de 2000 dernières années. Cet homme, Philippe, était un homme simple. Il a été fort dans sa relation avec Dieu. En Actes 6, 3, ça dit qu'il était plein de l'Esprit. Donc, continue à prier que Dieu te remplisse avec son Esprit pour que quand il veut vous appeler, quand il veut vous parler, vous êtes à l'écoute. Il va vous conduire. Et il était obéissant à l'appel de Dieu. Il faut que, parce qu'il y a des gens qui viennent à Denis et moi et disent, « Oh, je ne peux jamais faire ce que vous faites. » Oh, peut-être c'est vrai. Mais est-ce que tu es capable de marcher et voir ton voisin et parler avec eux et de les aimer? Non, oui, tu es capable. Est-ce que tu peux aller dans le sud de Longueuil et si Dieu te l'appelle pour une raison, on ne sait pas pourquoi, est-ce que tu es capable? Oui. Dieu est grand, il peut faire de grandes choses pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Que Dieu vous bénisse. Et c'est vraiment, merci beaucoup pour cette occasion. Merci, pasteur. C'est vraiment une bénédiction pour moi. Prions. Dieu. Et à tu es plein d'amour. Suive, qu'ils connaissent ton amour, comme les gens à Samarie. Ils ont découvert pour la première fois comment tu es, comment tu les aimes. Et Dieu, je te remercie pour ta parole qui nous encourage. Merci pour cet exemple de Philippe qui donne comment il a montré son obéissance à toi. C'est dans le nom de Jésus en prie. Amen.